Bienvenue dans le Tourbillon Vert, l'émission qui rassemble les médiateurs sociaux autour du vivant. Avec Terra Média, les lundis, une fois par mois à 9h sur Radio MDM.
Le tourbillon vert sur MDM, on célèbre, on protège, on apprend aussi à sublimer le vivant avec celui qui est peut-être plus vivant que Céline Dion en chantant « I'm alive ».
Rudy Dupont, bonjour.
Waouh, quelle introduction, monsieur Hillcock, ça fait vraiment plaisir.
Ça fait surtout longtemps que je ne vous ai pas vu, entendu.
C'est ça, on peut le dire, hein, c'est vraiment le retour de notre podcast Le Tourbillon Vert après un hiver où nous avons fait de la gestion de la matière organique.
Surtout vous, mon vieux.
On a laissé les broyats de branches, les feuilles mortes se décomposer sur le sol, voilà, pour entretenir la fertilité et... laisser place à de nouvelles pousses.
Voilà, vous gérez le sol, moi je gère l'humain, du moins j'essaye.
On essaye.
Et ça n'est pas tous les jours facile.
On essaye.
Justement, on va réunir les deux, le sol et l'homme, avec votre invité, il s'appelle Stanislas Sara. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Je suis très content de vous avoir ici, on va pas tout vous dire tout de suite.
Nous sommes très contents.
Nous sommes très contents.
Réciproque.
On est dans du vertueux, on est dans un projet beau, touchant, ça rime avec enfant. Avec Stanislas, un des plus beaux exemples qu'on puisse avoir de reconversion, mais c'est presque une conversion.
Ouais, tout à fait.
Vous nous expliquez, peut-être faire une présentation, Rudy, comment vous connaissez vous deux?
On se connaît depuis un petit moment, on va dire.
Depuis le lycée, ouais.
Voilà.
Il y a des doses.
Il y a des doses. Donc le projet est magnifique et vraiment c'est un honneur de vous laisser la parole ce matin pour nous expliquer tout ça.
On va parler de ce projet. C'est à l'agro. On va sortir un peu. De pas grand chose. Je suis un petit peu quand même des lisières des Landes. Ouais. Parce que c'est vraiment un projet exceptionnel.
Ouais.
Ça se passe à l'Agrolet du Gers, petite commune, c'est vers...
C'est un peu avant Gondrin, après Eauze, 6 km des Eauze.
600 habitants, dont vous depuis ?
Ouais, depuis, officiellement depuis le 1er février.
Alors qu'est-ce qui vous a amené à l'Agrolet du Gers ?
Je commence par le début alors.
Ouais, sachant que...
Ouais, alors sachant qu'avant j'étais Mont-de-Marsan, j'étais barman, serveur de métier.
D'où la fameuse reconversion.
Voilà, c'est ça. Donc post-Covid, pendant le Covid déjà, comme beaucoup de gens je pense, on a fait un peu un point sur nos vies, quoi.
Comme 8% du monde de la restauration.
Ouais, c'est ça, ouais. 200 000 à peu près de gens qui ont changé de vie. Donc j'ai commencé à vouloir faire quelque chose qui avait du sens, quoi. Envie de vivre mieux consommer, vivre plus sainement, plus simplement. Donc avec les souvenirs du grand-père qui faisait le jardin et qui nourrissait presque toute la famille, l'idée de faire du maraîchage un peu émergé, quoi. Et du coup j'ai commencé à me renseigner, à faire des stages pro, à lire beaucoup, à rencontrer des gens. Puis du coup j'ai compris qu'il fallait que je fasse une formation, donc il fallait que je passe un BTS agricole pour pouvoir prétendre aux aides à l'installation.
Ça c'est là où la condition sine qua non.
Ouais, voilà, c'est ça, il faut avoir ça ou alors 10 ans en agriculture. Donc du coup je me suis lancé là-dedans en 2022 au lycée agricole de Wereleuil, là, à côté
pour un BPREA.
C'est ça, responsable d'exploitation agricole.
Okay. Vous aviez quel âge à l'époque ?
Eh bien, j'avais, 2022, j'avais 38 ans.
Ouais, donc vous avez fait exploser la moyenne d'âge sur place ?
J'étais quasiment le plus vieux, Et donc, c'est vrai, c'était une formation pour les adultes en reconversion, donc vraiment le profil typique des gens comme moi qui voulaient changer de vie. Donc c'était option maraîchage, donc pendant 8 mois, en gros, c'est un condensé de 2 ans de BTS où tu apprends tout, vraiment, la gestion administrative, après toute l'agronomie, les plantes, le rapport du sol, la biodiversité, enfin vraiment très complète cette formation, dans le but de pouvoir gérer une exploitation agricole et de s'installer, quoi. Donc du coup, j'ai obtenu le BPREA en juin 2023. Et donc depuis, je cherchais à m'installer, donc chercher du foncier, chercher une ferme à reprendre, chercher peut-être à s'associer avec quelqu'un. C'était pas évident.
Puis
j'étais à l'accès au foncier, c'est assez compliqué, surtout dans le nord des Landes. Enfin, moi, j'étais à Mayer là quand j'étais encore à ce moment-là, j'étais encore dans le coin. J'étais à Mayer, c'est assez compliqué de trouver des petites parcelles. Et du coup, l'année dernière, donc août 2024, je suis tombé sur une annonce via Facebook qu'on m'a partagée de la commune de l'Agrolet, qui cherchait un maraîcher porteur de projet pour gérer la ferme communale. Donc c'était une ferme qui a été montée par le maire dans le but de nourrir l'école du village. Et c'était géré par un agent communal, mais là, il voulait quelqu'un qui s'installe à son compte et qui gère vraiment la ferme de A à Z, quoi.
Alors, le maire s'appelle Nicolas Mélier.
Ouais.
Pour être clair tout de suite, c'est pas l'élu qui veut saupoudrer de, moi je dis saupoudrer de verre un peu, son programme économique. Nicolas Bellier, ouais. Il a été agriculteur bio pendant...
Depuis 35 ans, je crois.
Ouais, depuis 35 ans, je crois qu'il avait créé la première ferme bio en Occitanie.
Tout à fait.
Et donc ce projet, pour lui, a vraiment du sens. Ouais. Comment s'est fait le lien avec le
verre? Du coup, je l'ai appelé, on s'est rencontrés une première fois, il m'a fait visiter la ferme, il m'a expliqué le projet.
À aucun moment, le fait que vous soyez... Pardon, landais. Débutant.
Non, landais. Ah, débutant.
Que vous soyez landais et débutant,
alors, le fait que je sois débutant, oui et non. Disons que forcément, il savait que ça faisait que 2 ans que j'avais mis le pied dedans. Ouais. Mais il a vu que j'étais motivé. J'ai su le convaincre quand même que je savais de quoi je parlais. Et puis il m'a quand même
dit... Oui, parce qu'on n'allait pas lui faire à l'envers, vu son
profil. Ah non, sûrement pas. Il y avait des conditions bien précises. Donc, si je ne respectais pas les conditions, il m'a dit, si à un moment donné, tu le sens que finalement, tu n'es pas capable ou que ça ne le fait pas,
c'est trop dur.
Pas de problème, soit je t'accompagne, soit tant pis, on passe à autre chose. Mais voilà, il ne faut pas que tu partes dans un truc si tu ne le sens pas. Et en fait, bon, du coup, l'installation s'est hyper bien passée. Et là, ça se profile très bien. Donc, du coup, c'est plutôt bon signe, quoi.
Moi, je trouve ça super intéressant et plein de perspectives pour... la jeunesse, le fait vraiment de saisir les opportunités, parce que là c'est plein de concours de circonstances qui t'ont mené à dire ben là vraiment c'est le moment, on y va et on saisit cette opportunité pour changer sa vie, entre guillemets, et aller vers quelque chose de super vertueux.
C'est un saut dans le vide, mais comme tu dis,
il faut croire en soi, quand vous avez des objectifs, des rêves,
puis d'une noblesse absolue, celui de alimenter des cantines et donner à manger,
Du coup, le projet,
au bout, c'est ce projet-là, c'est donc de fournir en légumes bio des cantines.
Ouais, alors c'est plus petit. C'est un regroupement de 4 écoles maternelles et primaires pour l'instant. Donc les 4 écoles des 4 villages autour, quoi. Donc c'est dans les moins de 10 km autour. Donc le but, c'est ça, c'est d'être en autoproduction pour la cantine, pour les légumes, en bio. On sera à peu près à 90% d'autoproduction, parce qu'après, il y a des choses qu'ils achètent, comme les canards, des choses comme ça, qui ne sont pas produits localement.
Et là, vous produisez quoi, du coup?
Mais moi, je produis que les légumes.
Ouais.
Et,
on a quoi, du coup?
Bon, tomates, il y a une quarantaine de légumes.
Tous les
légumes
de saison.
Oui, alors c'est que du légume de saison. En fait, on a monté un calendrier avec le cuisinier qui, lui, transforme les légumes. Et donc, du coup, une quarantaine de légumes. Donc, ça passe par la tomate, le poivron, les choux, les carottes, les pommes de terre.
Toute saison. Vraiment, vous produisez du légume. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une partie plein champ ou c'est que de la serre?
Oui, il y a une partie plein champ. Pour l'instant, il y a 600 mètres carrés. Pour cette année, il y a 600 mètres carrés de serre. Et 4000 mètres carrés de plein champ, donc un demi-hectare en tout.
Un demi-hectare.
Ouais, pour l'instant, pour cette année.
Voilà. Ok, et est-ce qu'on peut parler aussi de la mécanisation, comment vous travaillez, d'un point de vue bien-être au travail, qu'est-ce que ça procure?
Enfin, moi, mon rêve, c'était d'essayer de montrer un peu aux autres, ou du moins d'initier des gens...
Transmission
et transition. Le but, c'est de respecter la nature le plus possible. La
transmission alimentaire, un bon concept.
Et essayer de changer un peu le modèle. Alors, c'est un peu se battre contre des moulins, mais je pense que si on est de plus en plus nombreux à le faire, il y a encore de l'espoir, quoi. Moi, c'est ce qui m'a donné envie quand j'ai vu quelqu'un le faire. Donc, je me dis, si ça m'a donné envie à moi, peut-être que je peux donner envie à quelqu'un, etc., etc.
Donc, c'est l'idée de l'émission aussi.
Voilà. Donc, sur la mécanisation, justement, c'est de la très faible mécanisation. J'ai un tout petit tracteur que j'utilise que 2 fois dans l'année, une fois pour faire les planches et une deuxième fois vers l'automne pour répandre la matière organique. Je fais du sol vivant, donc les planches sont faites une fois, après ça ne bouge pas.
Ok, donc il y a très peu de travail de sol.
Ouais, enfin, très peu de travail de sol, ouais, c'est ça. Pas de labour.
Pas de labour.
Non, pas de labour.
Donc c'est un travail superficiel.
Le premier horizon, on est sur 10 cm, 15 cm. 15, voilà, histoire de ne pas détruire la mycorhize, pas détruire la vie microbienne, tout ça.
Et il y a le lac à côté pour l'eau?
Ouais, il y a le lac à côté. Pareil, au niveau de la gestion d'eau, on ne tape pas dans une nappe phréatique. C'est une retenue collinaire, donc c'est l'eau des pluies qui est collectée dans ce truc. C'est pas une méga bassine, attention. Mais c'est à peu près 10 000 m3 et ça me suffit, moi, pour toute mon année.
Et on n'a pas dit le nom de la ferme, du coup?
Alors, le nom de la ferme, c'est les légumes du Clerc. C-L-E-R.
Sur le site, je crois qu'il y a une conserverie à côté.
Donc le maire, pour bien ficeler le projet et pour que ce soit crédible, parce qu'il a demandé des subventions pour monter cette légumerie, donc il a fait construire une légumerie conserverie qui est juste au-dessus de la ferme, à 50 mètres au-dessus de la ferme.
Parfait.
Ouais. Donc en fait, moi, je cultive mes légumes et je les livre à cet endroit-là, donc 50 mètres au-dessus. Et c'est là que tout est transformé, tout est emballé, conditionné et après dispatché dans les écoles autour. Donc c'est vraiment un circuit hyper court, on ne peut pas faire plus court. Quoi.
Pour s'installer, comme vous l'avez fait, donc on est vraiment sur de la petite surface. Mmh. Pour l'instant, on est sur un demi-hectare. Mmh. Est-ce que vous pouvez parler du coup de la chambre d'agriculture et du coup de l'aide qu'elle vous a donnée pour monter ce projet et au niveau du financement surtout comment ça se passe?
Parce qu'elle imagine qu'il y a vous avez rencontré des réticences ou des freins?
Ouais, des freins pas vraiment, mais disons que quand tu mets un pied là-dedans, il faut que ton projet soit carré pour être accompagné, pour avoir justement les subventions, les aides à l'installation. Donc du coup, en fait, la première aide à l'installation, c'est ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur. Donc ça, c'est quelque chose qui... Il faut avoir déposé le dossier avant d'avoir 40 ans. On peut le faire après avoir 40 ans, mais on n'a plus qu'un tiers de l'aide. Donc ça représente à peu près 30 000 euros dont j'ai pu bénéficier. Donc ça, c'est vraiment une aide à l'installation. C'est quelque chose pour démarrer, pour acheter les plans, pour acheter tout le matériel nécessaire dans le chiffrage du projet. Et en fait, ça engage que tu sois suivi pendant 4 ans par la Chambre d'agriculture. Donc c'est un suivi, mais c'est aussi un accompagnement. Et donc, tu as un prévisionnel avec des objectifs à atteindre. Et si tu atteins tes objectifs, au bout de 4 ans, après, ils te laissent tranquille et la machine est lancée. Et si jamais tu n'atteins pas les objectifs et que tu dois arrêter avant parce que ça ne marche pas, c'est des aides que tu ne rembourses pas forcément. Mm-hmm. Mais c'est compliqué parce que souvent, quand tu achètes là, ce n'est pas mon cas, mais quand tu achètes du foncier ou des trucs comme ça, du coup, tu te retrouves endetté. Donc, le but, c'est quand même d'atteindre les objectifs. Mais on n'est pas obligé de te demander de rembourser, quoi. Ils te disent, c'est fini, ils te mettent en liquidation. Mais bon, donc du coup, là, moi, j'ai eu ça, la DJA, donc ça, c'est la dotation jeune agriculteur. C'est la première aide à l'installation par la Chambre d'agriculture.
Et au niveau de la PAC
au niveau de la PAC, voilà. Donc, je suis au plein exercice, je serai à moins de 2 hectares, donc c'est ce qu'on appelle du micro-maraîchage. Du coup, en plus, je peux bénéficier d'aides, donc c'est compris dans la PAC, donc c'est les aides de l'Europe, de l'État et de la Chambre du ministère de l'Agriculture.
Très bien.
Donc ça, spécifiquement pour moi, je peux bénéficier d'une première prime qui s'appelle l'éco-régime. Donc ça, c'est une prime qu'on donne aux gens qui ont des pratiques vertueuses en faveur de la transition écologique, du respect de la biodiversité, la restructuration des sols, la régénération des sols. Donc ça, c'est une première aide qui est plutôt pas mal. Après, il y a l'aide au maraîchage biologique. Donc ça, c'est juste le fait de s'installer en tant que maraîcher bio, donc certifié. Là, c'est pareil, tu as une petite aide en plus qui te permet de démarrer ou de garder une trésorerie pendant ton exercice. Et après, il y a une troisième prime qui s'appelle aussi mesure en faveur de l'agriculture bio. Donc c'est un peu le même principe, c'est parce que tu as des pratiques vertueuses, parce que tu n'es pas mécanisé, parce que tu fais tout à la main, parce qu'il n'y a pas de produits phyto. Et parce que c'est en circuit court aussi. Donc tout ça représente à peu près l'équivalent de 6 000 euros par an. Voilà. Donc c'est pas mal quand tu démarres. Ça t'assure soit un petit pécule pour démarrer le temps que les légumes commencent à pousser, soit ça te permet de garder la trésorerie de côté, ou alors ça peut aussi te permettre de payer les premières traites quand tu démarres, quoi. Donc voilà, en tout, c'est à peu près 30 000 euros que tu peux avoir à l'installation si ton projet est carré et si ton projet est validé par la Chambre d'agriculture.
Et par rapport du coup à la production, de légumes, donc c'est essentiellement que des fruits légumes.
Mmh. Ouais, je fais des fraises aussi.
Des fruits aussi, voilà, il y en a pour tout le monde. Ouais. Donc du coup, vos productions, tout est racheté par,
c'est la mairie qui achète
par
tout.
La commune.
Ouais.
La commune reprend, en fait, achète toutes vos productions et elles sont dispatchées sur les différentes cantines, que du scolaire.
Okay. En fait, c'est un regroupement de 4 écoles, donc on peut dire en quelque sorte comme si c'était une école. Et en fait, c'est la mairie qui rachète tout, qui transforme à la légumerie et qui après dispatche sur les 4 écoles autour.
Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de production à perte, quoi.
Non, il n'y a pas de production à perte. Après, on a prévu des volumes avec la mairie, avec le cuisinier, selon les besoins estimés des écoles. En fait, quand tu montes le projet, la Chambre d'agriculture t'impose quand même une marge d'échec de 35%. Donc tu dois prévoir quand même de planter plus en cas d'échec de production. Donc je vais sûrement me retrouver avec de la surproduction. Okay. Donc ça, je me suis gardé moi quand même en accord avec le maire, parce que le principe, c'est que lui est prioritaire, c'est lui qui m'achète d'abord mes légumes. Mais si j'ai de la surprod, là oui, je vais organiser comme une petite AMAP sur l'exploitation, en faisant un listing des gens du village et des gens intéressés, via Facebook aussi. Et en fait, quand j'ai de la surprod, j'envoie un message, hop,
de la
vente directe à la ferme.
Voilà. Genre, je vais me projeter, si vous me permettez, messieurs Stanislas Farah, parce que les collectivités autour qui vont entendre ça, qui ne doivent pas être forcément pourvues, je pense aux autres collectivités, je pense à des, peut-être des maisons de retraite, des lieux comme cela, ça peut rigoler.
Ouais, ça peut rigoler, ouais. Là, pour cette année, il y a 4 écoles, mais l'année prochaine, il y aura un collège en plus, le collège de Eos.
Ouais.
Et dans 2 ans, il y a une maison de retraite, une maison de retraite et un centre pour handicapés. Donc, dans 2 ans, on aura
plus
de volume. Ouais, il y a un plan.
Il y a vraiment une vision, une vision à long terme, en fait, de l'évolution de cette entreprise.
Ouais, ouais.
Est-ce que des corridors de biodiversité, est-ce que c'est quelque chose que tu compterais mettre en place
totalement.
Ou que tu mets déjà en place
C'est en cours. En fait, moi, j'ai demandé par le biais de la Chambre d'agriculture et d'une association qui s'appelle Arbres et Forêts. En fait, tu peux avoir des subventions pour planter des haies et des arbres autour de l'exploitation.
Il me semble qu'il y a justement la PAC qui a quelque chose là-dessus, des subventions par rapport aux haies, tout ce qui est haies, bocage et ainsi de suite.
C'est ça. Donc, oui, là, ce qui est prévu, donc ce sera plutôt automne et printemps prochain, mais c'est en cours. Donc, tout autour de l'exploitation, il y aura des haies mellifères plantées et des arbres fruitiers, pas fruitiers, mais le but, c'est de recréer des haies, recréer des corridors pour la biodiversité, attirer les abeilles, attirer tous les auxiliaires aussi.
Et dans ce plan-là, est-ce que potentiellement, il n'y aurait pas un apiculteur ou des apiculteurs qui peut-être voudraient laisser des ruches sur ton...
Alors, en fait, je pars... Il y a déjà des ruches, oui, parce qu'en fait, la serre, c'est une serre de 1200 mètres carrés. Moi, j'en ai que 600. Je la partage avec des gens qui font de l'hydroponie à côté, qui s'appellent les sourciers. Et en fait, lui, il fait du miel aussi. Donc, il y a déjà des ruches avec des abeilles. Mais oui, sûrement que ça peut intéresser aussi d'autres apiculteurs. Donc, ça, on verra en temps et en heure une fois que ce sera installé.
Très bon enchaînement. J'allais vous demander aussi, avec votre parcours, votre passé et le fait d'être nouveau dans la place, justement, comment vous êtes regardé autour vos nouveaux, vos voisins.
Mais j'ai la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de maraîchers autour. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Dans tous les cas. Après, quand on arrive dans un petit village, c'est un peu partout pareil. Ouais. Forcément, en fait, on dit dans ce milieu-là, il faut faire ses preuves. Quoi. Ouais, ça sert à rien de parler, de vouloir expliquer tout. On te juge sur ton travail, quoi. Ouais. Voilà, dans les campagnes, c'est comme ça. Et puis, d'ailleurs, je pense que ça devrait être comme ça tout le temps.
Dans beaucoup de domaines, c'est la même chose.
Si on jugeait moins les gens sur leurs paroles et plutôt sur leurs actes, ça marcherait mieux, quoi.
Il s'appelle Stanislas Farah. Par le passé, vous avez peut-être goûté un de ses dry martini ou gin fizz et autres. Eh ben, désormais, peut-être que si vous passez aussi, parce que voilà, on le disait, il y aura peut-être une AMAP à venir.
Ouais.
Si vous passez donc par l'Agrolet du Gers, là où vous êtes installé, Stanislas, à la ferme du Clair pour soutenir en tout cas ce projet.
Soutenir le projet
vertueux, noble, voilà, avec du talent, de la résilience et au bout des enfants qui mangent sainement.
Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à faire un tour sur la page de la commune. Il y a des petites vidéos des enfants, des interviews. On voit un peu le maire aussi qui défend le projet. Ouais, si ça peut donner l'idée à des maires de petites communes de mettre des choses comme ça en place, c'est bien. Ouais.
L'envie, c'est de pouvoir multiplier ce genre de projet vertueux le plus possible.
Ouais, il y a encore de l'espoir. On va peut-être y arriver à changer de modèle et à remettre l'humain au centre. Quoi.
Merci pour de partager cette expérience. Merci beaucoup, Stanislas Farah.
Merci à vous.
Ouais, en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir ici et ça fait plaisir de pouvoir redémarrer cette saison du Tourbillon Vert avec un acteur du vivant.
Oui, on attaque par le printemps, nous.
C'est ça.
Super.
Merci beaucoup,
merci les gars.
Merci. C'était le Tourbillon Vert, l'émission qui rassemble les médiateurs sociaux autour du vivant, avec Terra Média, une fois par mois, le lundi à 9h sur Radio MDM.